On accueille tout de suite Pierre Rabou. Voilà, Pierre qui vient de soutenir sa thèse brillamment. Il aime pas que je dise ça parce que ça le met mal à l'aise.
Bonjour, donc moi je suis historien. Donc je travaille plutôt sur archives. Donc cette thèse, elle était sur les mouvements punk en Suisse, France et Allemagne, RFA, RDA, entre 77 et 82. Donc dans le cadre de cette journée, alors mon souhait c'est de montrer l'impact de l'espace urbain pour les scènes punk, donc dans ces toutes premières années entre 77 et 82. Et donc pour moi, ce que j'ai développé, c'est que le punk, pour se réaliser concrètement, il doit vraiment se territorialiser. La panoplie punk, elle se concrétise dans une scène. Donc ici, pour vite donner une définition, mais après je vais arrêter avec les définitions, je conçois cette notion de scène après Wilstrow comme la réunion d'individus en fonction de différents critères que sont la sociabilité, les pratiques culturelles, mais surtout dans cette scène, il y a l'importance du lieu. J'ai baissé un peu, je suis quand même plus petit. Voilà. Il s'observe donc pour moi dans le mouvement punk vraiment une tendance au localisme qui peut s'observer dans les différences qui existent entre les scènes, entre les différents pays mais aussi entre les différentes villes, mais aussi dans le contenu des fanzines qui dans les premières années évoquent en priorité vraiment la vie de la scène. Donc ouais, le contenu des fanzines aussi qui est vraiment focalisé sur la vie de la scène elle-même, voilà, quels sont les concerts qui ont lieu, qui sont les groupes, quels ont été les moments partagés récemment, davantage que ce qui se passe en dehors. Donc là je parle vraiment des toutes premières années du punk. Donc. Et une scène artistique, pour exister dans la ville, elle a vraiment besoin de conquérir, de détourner, de s'approprier des territoires, qu'il s'agisse d'un quartier, d'une salle de concert. Alors, ces territoires, ils constituent des lieux pour créer, mais aussi pour socialiser. Ils jouent donc un rôle important dans l'identité de la scène. Donc mon postulat, c'est pas de dire ici que le punk n'existe que dans les villes, mais de montrer comment l'espace urbain, il joue un rôle important pour la mise en place des scènes dans les grandes villes où le punk émerge dans ces années-là. Donc je vais explorer ces questions en montrant d'abord comment cette urbanité du punk, elle peut se voir dans notamment les titres de chansons, et j'ai ensuite analysé quel discours envers la ville est développé dans ces chansons, mais aussi dans les fanzines. Et ensuite, je vais montrer comment cette position des punks vis-à-vis de la ville, elle peut se comprendre avec les changements historiques que l'organisation urbaine connaît à ce moment-là, qui ont déjà été un peu évoqués plutôt par Simon, et aussi les conséquences directes pour les scènes punk à ce moment-là. Donc pour cette présentation, je vais mobiliser des éléments liés aux quatre pays que j'ai étudiés, donc autant la France, la Suisse, l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, afin de montrer comment ces processus, ils constituent des traits récurrents qui se retrouvent à l'échelle internationale, à cette période-là. Donc la centralité de la ville, elle se voit d'abord dans la propension de nombreux punks à faire apparaître le nom de leur ville ou la thématique urbaine directement dans le titre des chansons. Donc je ne vais pas faire ici un inventaire exhaustif, mais on peut citer par exemple Leipzig City du groupe Wutanfall de Leipzig, Zürich Brennt, donc TNT de Zurich, en passant encore par Genève Brûle des Scélérates ou Paris Maquis de Metal Urbain. Certains titres, ils construisent vraiment une cartographie de l'espace urbain, souvent sous l'angle de la conflictualité. On peut penser par exemple au titre « Je reste Stalingrad », la souris déglinguée sortie en 81, qui cite dès son titre vraiment des lieux précis. Et plus généralement, les productions de cette formation, elles vont développer une mise en avant de la banlieue, comme ça a été évoqué à la Philharmonie, en lisant vraiment fréquemment des références précises à des lieux. Un autre exemple, c'est le titre Innenstadt Front, qui est le front du centre-ville, du groupe de Düsseldorf Mittagspause, qui sort en 79, mais aussi en avant le thème de la contestation. Ici, je vais vite passer un extrait.
Thank you.
ma traduction, donc pas ce passage précis, mais d'un autre endroit de cette chanson, c'est « Les nazis au mémorial et les punks à la Shadowplatz, mais le front est rassasié, aucune chance que la nouvelle Babylone tremble devant le jappement de la nation, chaos en périphérie, mais pas dans les quartiers de Bilk et de Derendorf, la situation est calme sur le front du centre-ville. » Donc ce titre joue vraiment sur le registre guerrier et présente la ville de Düsseldorf comme un champ de bataille. Il use à nouveau de références à des lieux précis, donc la Shadowplatz, les quartiers de Bilk et d'Ehrendorf. Même si le texte ici cherche plutôt à proposer une vision imagée de la ville, qui est vraiment une présentation récurrente dans le Sandpunk, c'est vraiment celle d'une ville qui serait à feu et à sang. Dans un registre plus poétique, on peut encore penser au titre « Planté comme un privé » d'Asphalt Jungle, sorti en 1977, avec ici plutôt une évocation de la ville sous l'angle du roman noir, avec les paroles qui disent, je cite ici, « Planté comme un privé au fond de la ville, encore un dernier cocktail, comptoir anonyme, planté comme un privé au fond de la ville, tous ces gens qui sentent la mort, et moi qui déjà m'ennuie, cette ville ne changera jamais. » Donc ici aussi, donc une évocation de la ville, mais ici moins avec des références précises, plutôt sur l'espace urbain, de façon un peu sous l'angle de l'errance ou de la dérive. Et la scène punk qui fait face à une situation urbaine extrêmement marquée, c'est celle évidemment de Berlin, et justement c'est celle qui va développer un effort de compréhension de cet espace. Ainsi, le groupe PVC chante Wall City Rock en 78, et ici je vous passe aussi un extrait.
Hey punker und Wall City Rocker, die hier versammelt seid, habt ihr viel Spaß? Und flippt nicht aus, das ist Punkrock Berlin. Wall City Rock. Hey, yeah, yeah, okay, let's do the Wall City Rock. One, two, three, four!
Ici, les paroles, c'est « J'ai vécu avec le mur, je regarde en dehors de ma fenêtre, je le vois partout, je ne peux pas l'ignorer parce qu'il est ici », donc qui sont vraiment pointés, le sentiment d'étouffement, mais même si le titre il se termine par une vision plus ambiguë de la ville entre liberté artistique et cloisonnement, qui est vraiment celle de Berlin. En fait, les paroles à la fin, c'est « La ville de Berlin, c'est le mur, mais c'est la seule ville où on peut avoir du fun, tu peux faire tout ce que tu veux ». Bon, il faut aussi noter que ce rapport au mur, il est aussi développé dans un zine qui s'appelle Tefir, et cette fois de manière bien moins ambiguë. Il y a un article qui évoque justement à quel point le taux de suicide ils sont proportionnels à la proximité avec le mur, et puis dans une édition spéciale, voilà, il y a cet élément urbain qui va être exploré en croisant les approches visuelles avec des photos du mur, des collages, étymologiques avec une définition du dictionnaire, mais aussi dans une perspective musicale qui compare le mur à la musique de Pink Floyd en disant « Le mur, c'est comme la musique de Pink Floyd, c'est toujours le même, bien trop long et monotone. » Donc cet exemple représente un cas vraiment, un paroxysme de la volonté des scènes punk de réfléchir à l'organisation de la ville. Si on ne retrouve pas ce phénomène à un stade aussi développé dans les autres scènes, c'est néanmoins vraiment un thème qui est régulièrement présent et critiqué. En fait, le modèle de la ville qui brûle, qui est popularisé évidemment par les Clash, est souvent repris. Donc, j'ai parlé avant de Genève brûle des Accelerates, mais on pourrait donner d'autres exemples. Et presque partout, ce rapport à la ville, il est donc dans une forme de rejet. Et ce dernier s'exprime souvent à travers le registre de l'ennui qui était déjà évoqué dans Planté comme un privé. En Suisse, ainsi, une des chansons emblématiques de la scène zurichoise, Zürich brennt, qui vient donc Zurich brûle, qui sort en 79, reprend directement le slogan de la ville qui brûle, mais il lie ce fait de brûler à l'ennui. Donc les paroles, c'est la ville des vieux cons, Zurich brûle, Zurich brûle d'ennui. Donc à travers l'ennui, c'est vraiment une critique de l'organisation de la ville, mais aussi d'une société conservatrice qui est dénoncée. En France, on retrouve aussi cette thématique de l'ennui dans le numéro 3 du fanzine Burning Rome, qui parle, lui, des tribus de, là je cite, de 82, qui se réclament d'une zone mythique, mais ils préfèrent Beaubourg, le rose-bonbon et les bains-douches aux cités de l'ennui de Vitry et de Saint-Denis. Donc cet extrait, il indique bien le lien direct qui existe entre l'ennui et les nouvelles organisations de l'espace urbain, ici avec le cas des cités. Hors de Paris, Dazi Bao, donc un autre fanzine, abonde dans le même sens. Je cite donc ce fanzine. Les Bordelais souffrent de leur architecture frigide, ces enfilades de façades hermétiques, ces maisons insalubres, ces quartiers déserts. Alors, la différence, en Allemagne de l'Ouest, on n'a pas tout à fait la même situation. C'est-à-dire que cette question de la ville, elle est très souvent traitée beaucoup moins dans une optique conflictuelle, mais plutôt soit sous l'angle du sarcasme, soit aussi sur la valorisation du béton qu'on a pu citer un peu ce matin. Ainsi, il y a vraiment une valorisation de la monotonie de la ville, qui est aussi, bien sûr, en partie ironique, mais notamment en titre, dans le titre « Zurück zum Beton », donc « De retour au béton », du groupe SIF, donc je vous passe aussi un extrait d'Allemagne de l'Ouest.
Ich glaube, ich träume, ich sehe nur Bäume, Bälle überall, ich mag auf einmal, ich bin ein Tier hier, ein scheiß Tier hier, da bleibt mir nur eins. Zurück zum Beton, zurück zum Beton, zurück zur U-Bahn, zurück zum Beton, zurück zum Beton, zurück zum Beton. Zurück zur U-Bahn, zurück zum Beton. Wer ist der Mensch, der Mensch? Wer ist der Liebe Glück? Zurück zum Beton, zurück zum Beton. Ekel, Ekel, Natur, Natur. Ich will Beton pur. Blauer Himmel, blaue See. Hoch lebe die Betonsee. Keine Böge, Büsche, Pflanzen. Ich will in Beton tanzen. Zurück zum Beton, zurück zum Beton. Zurück zur U-Bahn, zurück zum Beton.
Ici, les paroles, donc la traduction, c'est « Je veux du béton, ciel bleu et lac bleu, en haut, ville a fait du béton, aucun oiseau, poisson, plante, je veux danser seulement sur du béton. » Donc ce ton du sarcasme, il revient également ici de façon plus marquée dans le fanzine « Ich und mein Spiegelbild », qui est un fanzine de Hambourg, qui consacre une page de son premier numéro sorti en 1980 à un faux parti, « Die Grauen », donc les gris, qui jouent avec la proximité avec « Die Grünen », les verts, dont le slogan est « Du béton à la place des fleurs ». Mais ici, le propos a un sens ironique plus évident, étant donné qu'il colle un projet du SPD de construire une grande salle de sport, initiative qui peut difficilement être lue comme une propice à recevoir le soutien de la scène punk. La scène punk d'Allemagne de l'Est, elle partage une critique de la ville en des termes légèrement différents, évidemment, parce que l'accès à des lieux ou à l'espace public pour pratiquer leur culture, il est tout simplement impossible en Allemagne de l'Est. La scène punk, donc, elle prouve avec d'autant plus de force cet ennui de la ville soviétique. Ces revendications, elles prennent aussi une tonalité de critique des villes où tout n'est qu'ennui, où tout est contrôlé. Ainsi, dans le titre « Leipzig in Trümmern », donc « Leipzig en ruine », le groupe Wutanfall chante « Leipzig City, froid des salles, maisons enfoncées cachées derrière des façades, la ville amendera quoi qu'il se produise en appartement ». Donc la ville est une fois de plus décrite sous l'angle d'un espace mort, sans vie, en insistant sur l'aspect monotone des constructions plates et sur la répression de toute tentative d'émancipation. Donc pour comprendre ces différents rapports à la ville, il faut aussi rappeler que l'émergence des scènes punk au sein des différents pays, elle coïncide avec une nouvelle phase de modernisation des villes, notamment en termes d'architecture. Au moment où le punk émerge, les villes connaissent des changements multiples, avec d'une part le renforcement des mesures répressives et sécuritaires via des forces de police, mais aussi d'autres modes de surveillance, et d'autre part l'aboutissement d'une consécration des centres-villes à un commerce libéralisé et dévoué aux activités de consommation grâce à la délocalisation des usines hors des centres urbains. En France, par exemple, pour donner un exemple plus précis, les investissements dans l'immobilier baissent de 2,3% par an. Et dans le même temps, les prix des loyers augmentent drastiquement. Ainsi, les loyers de 82 sont supérieurs de 177,1% à ceux de 1970. Et il y a aussi voilà, différents processus de libéralisation du marché, dont la possibilité de réduire le bail à une durée d'un an qui est votée en 1970. Donc on voit ces différents changements d'organisation de l'urbain. Et ces conditions, elles rendent difficile l'accès à un logement pour de nombreuses personnes, en particulier les personnes précaires. Et c'est ce que dénonce précisément le fanzine parisien Molotov et Confetti, en même temps que l'organisation néolibérale de la ville, qui montre qu'au-delà de l'ennui, le conflit se fait entendre dans la position des scènes punk vis-à-vis de l'espace urbain. Donc ici, je vais citer ce fanzine qui dit « La galère est 300 000 logements vides rien qu'à Paris, des vieux, des neufs, des grands, des petits, des propres et des crades, tout ce dont on pourrait rêver, sauf que la ville de demain, ils la veulent propre, ordonnée, disciplinée et rentable ». Donc on voit bien qu'au-delà de l'ennui, il y a aussi une critique vraiment littérale qui se met en place à ce moment-là dans certaines scènes punk. Et en Allemagne de l'Ouest, si, que je vais préciser après, il y a des espaces qui sont plus facilement accessibles, on assiste aussi à des projets de destruction, reconstruction de quartiers dans des buts commerciaux, notamment à Hambourg et à Berlin. Et à Hambourg, certains membres du gouvernement menacent d'interdire des parties du centre-ville aux punks, tandis que la ville de Berlin, elle met en place une politique de fermeture des maisons occupées qui ont passé de 165 en 81 à seulement 38 en 83. Donc on voit vraiment qu'il y a ces processus de contrôle de l'espace urbain qui se mettent en place dans les moments même où les différentes scènes punk émergent. Donc cette configuration de la ville a un impact direct sur les scènes punk et leurs besoins de territoire. Alors, en Allemagne de l'Est, la scène, elle peut tout simplement pas exister, comme j'ai déjà mentionné, ou que vraiment dans les marges. En effet, voilà, pour dire rapidement, tout espace y est contrôlé par le parti, y compris les lieux de loisirs, et en particulier ceux qui sont destinés à la jeunesse. Donc, les scènes punk est-allemandes, elles peuvent donc que s'exprimer dans des lieux privés et dans les appartements. Et même dans ces derniers, il y a une surveillance étatique. Ainsi, les archives de la Stasi, elles font état de surveillance d'appartements et de filatures des punks dans la rue. Et c'est en fait l'église protestante qui fournira à la scène punk ses premières occasions de se produire ou d'écouter du punk. Parce que l'église, c'est une des rares sphères qui joue une relative liberté dans la société d'Allemagne de l'Est. Et dès lors, elle va développer des formations et des activités destinées à la jeunesse, et notamment envers les punks, avec une approche proactive. Par exemple, il faut savoir que l'église protestante, elle va vraiment prendre en charge financièrement le déplacement et les boissons lors des soirées punk. Ces dernières, elles ont par exemple lieu dans des espaces religieux comme la Johannes Langhaus à Leipzig. Donc on voit ici un cas par contre où s'il y a une existence dans la ville, c'est vraiment dans une marge extrêmement circonscrite pour lequel l'Allemagne de l'Est. Et l'autre pays qui est le plus marqué par l'absence de territoire pour la scène punk, c'est la Suisse. Ainsi, vraiment le domaine urbain des villes, il ne laisse à la fin des années 70 aucune place aux cultures jeunes. Il n'existe quasiment aucune salle de concert qui soit directement liée à ce type de pratique musicale. Ainsi, par exemple, si on prend l'annuaire des clubs qui est constitué par une association qui fédère les clubs de musique actuels, donc voilà, de façon très large, alors qu'on en compte 80 aujourd'hui, il n'y en avait que 3 avant 1980. Donc il n'y a vraiment aucune infrastructure, que ce soit des labels ou des concerts qui est développée. Les jeunes, ils ont à disposition que des grands complexes ou les centres de la jeunesse contrôlés par l'État, mais où, contrairement en France, il y a très peu de possibilités d'organiser des concerts, même rock. Donc la scène punk suisse, elle se retrouve donc rejetée à la marge de l'espace social, et c'est aussi pour ça qu'il y a cette critique. L'organisation de la ville ne lui laisse aucun territoire pour pouvoir exprimer sa culture, et c'est seulement suite à des mobilisations importantes qui auront lieu au début des années 80 que la scène punk suisse va pouvoir obtenir des lieux dans la ville. Donc en France, la situation est légèrement différente, elle va aussi évoluer. Dans les toutes premières années avant 79, le nombre de groupes reste relativement restreint, et la présence de salles pour la plupart héritées des années 50-60, comme le Gibus, le Gold Groove ou encore les maisons des jeunes et de la culture, elles permettent aux différentes formations d'avoir quand même relativement accès à des lieux, y compris en province, par exemple à Rouen, autour de Saint-Croix-de-Pelletier, et la rue Massacre, à Bordeaux avec le Luxor, la Chèvre ou d'autres exemples. Néanmoins, à partir de la fin des années 70 et le début des années 80, le nombre de groupes punk va vraiment augmenter, et dans le même temps, il y a des fermetures d'espace, un plus grand contrôle sur certains squats. Et ainsi, cette seconde vague du punk en France, elle va être elle aussi dépourvue d'infrastructures adéquates, et donc elle va se retrouver aussi rejetée à la marge, ne possédant plus de place légitime dans l'espace urbain. Mais il faut quand même rappeler ici, évidemment, que dans le cas de la France et de la Suisse, on n'est pas du tout dans la même configuration que l'Allemagne de l'Est. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une répression directe et initiale de l'État vis-à-vis des scènes punk. Ainsi, si on regarde les archives de police, tant en Suisse qu'en France, aussi bien au niveau local que national, il n'y a pas de prise de définition des scènes punk comme un danger en tant que tel, ce qui est vraiment le cas en Allemagne de l'Est. Donc, si par contre, la situation urbaine très différente, c'est celle de l'Allemagne de l'Ouest, et c'est aussi pour ça qu'on peut comprendre pourquoi dans la scène punk il y a une attitude beaucoup moins conflictuelle vis-à-vis de l'espace urbain qui est mise en place, c'est que vraiment là on est face à suite à reconstruction, il y a beaucoup plus d'espaces disponibles, notamment à Berlin et à Hambourg, et avec des squats qui se mettent en place dès le début des 70 et qui se pérennisent et qui sont disponibles pour les punks. Et vraiment, l'Allemagne de l'Ouest, c'est le premier pays où il y a vraiment des salles qui sont dédiées uniquement aux punks dans les différentes villes, comme le Rattingerhof à Düsseldorf, qui ouvre en 76, le Kraval 2000 à Hambourg aussi cette année-là, et puis le Metic SO 36 à Berlin en 78. Et c'est donc aussi le pays où il y aura le moins de critiques et aussi de moins de mobilisation. Et justement, au-delà d'évoquer l'ennui, il y a des scènes qui font vraiment face à une absence de lieux forts, à une situation très dure de l'organisation de l'espace urbain, où il y aura vraiment des revendications qui vont se mettre en place très rapidement. Donc, j'ai déjà mentionné pour la Suisse, mais dans le numéro 2 du fanzine Swiss Wave, il y a ainsi un interview de l'organisateur de concert Rolf Etter qui dit, je le cite, « Le mouvement dans son entier a des origines culturelles, étant donné que les jeunes n'ont tout simplement pas de lieu pour leur concert. » Donc cette citation, elle met bien en avant la question de l'espace, mais elle le circonscrit ici à la pratique du concert. Mais le terme qui va revenir le plus quand il y a des mobilisations fortes qui se mettent en place, notamment en Suisse, c'est vraiment celui d'autonomie, dont on a parlé juste avant. Et cette dernière, elle représente vraiment un enjeu central pour moi si on essaie de comprendre la conception de l'espace des scènes vis-à-vis de la ville. En effet, la marge, elle pouvait être revendiquée comme marque de séparation spatiale et sociale face au consensus de la société. Mais la question de l'autonomie, elle dépasse sa seule expression de la séparation pour réfléchir au lien entre les deux côtés de ces frontières spatiales et au sens de cette séparation. La notion d'autonomie, elle ne peut pas être réduite à un aspect de simple divertissement indépendant, conception selon laquelle les membres des scènes punk ne demanderaient qu'à pouvoir pratiquer et avoir accès à leur propre culture distincte de celle du reste de la société. Au contraire, cette notion, pour moi, elle doit se comprendre dans toute sa radicalité, d'autant plus qu'elle renvoie alors à différentes luttes qui ont lieu au même moment en Europe et notamment en Italie. Et ici, l'historien Marcello Tari revient justement sur le cas des autonomistes italiens, pour préciser les enjeux de l'autonomie comme mot d'ordre. Donc ici, je le cite. Les luttes des années 70, et pas seulement en Italie, montrent qu'à côté de la lutte pour le temps, un autre vecteur de conflit s'affirmait, qui s'étend jusqu'à l'époque actuelle, celui de la lutte pour l'espace, pour arracher, même momentanément, des territoires à l'État, aux entreprises, aux biopouvoirs, au contrôle cybernétique. Donc, citation, à mon avis, est extrêmement intéressante, parce qu'elle souligne à nouveau l'importance des enjeux liés à l'espace dans ses revendications. Alors, la référence au mouvement autonome italien, elle peut sembler biaiser l'analyse du fait que de la très forte politisation de ce mouvement-là. Néanmoins, c'est bel et bien ce terme-là qui va être utilisé par différents tracts et zines dans les scènes punk en Suisse, ceux qui se mobilisent le plus face à l'organisation urbaine. Donc voilà, c'est des centres autonomes qui vont être ouverts très tôt à Lausanne, Zurich et Berne. Et un groupe suisse a même une chanson qui s'appelle « Autonomie prolétarienne ». Le groupe, c'est HLM Gang, donc un enregistrement de 80. En France, le terme autonomie n'est par contre que rarement directement cité dans les productions de ces années-là, c'est-à-dire dans les chansons et les fanzines, mais il est présent néanmoins un peu en filigrane avec la cohabitation avec le mouvement autonome. Alors pour revenir au cas de l'Allemagne de l'Est, ici le rapport à la société, il ne se pose pas directement dans les termes d'autonomie. Il s'agit plutôt de revendiquer le droit d'échapper aux diktats de l'État est-allemand à sa surveillance et à sa répression. Donc il ne se joue pas ici une revendication d'autogestion et d'autodétermination. Néanmoins, il y a bel et bien une volonté de s'approprier de façon revendicatrice la marge. Et cette dernière, elle consiste justement le droit à un espace qui échappe au contrôle étatique, l'ouverture de lieux où différentes pratiques culturelles peuvent s'exprimer sans suivre les mots d'ordre imposés. Et ici, je vais aussi citer une autre chanson du groupe Wutanfall qui s'appelle Messestad Punk, qui encense les punks comme les Indiens de Leipzig. Donc les paroles de cette chanson, c'est « Nous avons tous seulement besoin des Indiens de Leipzig. Oh Leipzig, votre Nevada, vrai punk, ton image vit. Punk solitaire, mais Leipzig vit. Avec Wutanfall dans les pogos, drôle à en faire une crise cardiaque. La peau propre et tout le monde s'étonne que le pays est en feu. » Donc on voit de nouveau cette référence de l'Indien qu'on avait vu aussi ce matin. Et avec cette métaphore qui vraiment sert à concevoir la scène punk comme le seul lieu de vie dans une ville morte, le seul à pouvoir aussi y mettre le feu. Donc l'autonomie, elle désigne dans les deux cas des espaces restreints où l'endoctrinement étatique ne domine plus et où les individus jouissent d'une autonomie quant à leur pratique culturelle et à leur prise de position. Elle représente un mode revendicateur de rapport entre scène punk et ville. Et ce mot d'ordre, Il consiste donc à concevoir la séparation de la société dominante comme une valeur et à la défendre à travers l'indépendance et l'autogestion. La marge n'est plus seulement subie, comme on pouvait le penser avec cette reconfiguration des villes, mais elle est revendiquée, érigée en valeur. L'autonomie, elle appelle ainsi à une modification de l'espace urbain. Donc la première dynamique de ce type de modification de l'espace urbain, c'est évidemment la conquête de territoire pour accroître concrètement l'espace accordé par la société et l'État. Cette stratégie consiste à prendre possession de lieux. Donc là, évidemment, c'est le cas des squats, mais aussi de centres culturels, qui sont des prises concrètes de territoire. Mais au-delà de ça, il y a aussi une deuxième dynamique qui est la prise en charge d'enjeux qui dépassent l'espace seul de ces lieux pour s'attaquer à l'organisation de la ville dans son entier. Et cette volonté de dépasser la seule revendication de l'autonomie, elle s'exprime littéralement justement dans les scènes-punks qui font face aux villes où il y a un contrôle plus fort, comme c'est le cas en Suisse, où véritablement dans les fanzines, on a des citations qui disent « voilà, nous voulons toute la ville ». Une maison autonome, ça ne nous suffit pas. Ça, je cite un tract de Zurich. C'est aussi, par exemple, quand à Hambourg, cette volonté que j'ai parlé avant d'interdire une place publique aux punks. Il y a aussi là les punks qui vont se mobiliser en imprimant une brochure qui s'appelle Qu'est-ce qui se passe sur cette place, la Spritzenplatz, pour expliquer vraiment leur position et dénoncer la répression policière. Donc au-delà du simple lieu de divertissement, les textes produits ici exigent de ne pas se voir exclus de certains espaces et d'obtenir la ville en entier et d'en changer les règles et les modes de fonctionnement. Donc c'est là-dessus que je voulais conclure, montrer vraiment à quel point cet espace urbain il est important pour ces scènes des grandes villes, comment il va impliquer au début une forme de marginalité, mais à quel point après ce sera aussi en fonction des situations, vraiment un combat qui va être mené pour tenter de changer cet espace de la ville. Merci.